Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, c'est la question de la prière avec cette parabole très illustrée et presque amusante que le Seigneur prend de cette femme qui casse la tête d'un juge inique. C'est ce qu'on appelle une parabole par opposition, puisque cette femme veuve demande quelque chose de juste, elle demande la justice, et le juge injuste ne va pas lui rendre justice, sauf pour une mauvaise raison. Vous voyez, c'est une opposition absolue, et tout ça est fait pour mettre en opposition au Seigneur, qui lui est le juste juge, et qui va donc, combien plus, évidemment, nous rendre justice. Alors, il faut voir quelles sont les conditions de cette demande de justice. D'abord, puisque c'est une question de prière, la prière est un dialogue. En exergue, je rappelle la petite anecdote que tout le monde connaît, mais il faut la rappeler, celle du curé d'Ars, qui voit un de ses paroissiens tous les matins, puisqu'il est dans son confessionnal, il voit passer un paroissien tous les matins, s'agenouiller profondément avant de partir au champ, et il se dit, celui-là, il doit avoir un secret dans sa prière, parce qu'il prie très profondément, etc. Donc un jour, il l'arrête, et il lui dit, « Alors, monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous faites quand vous priez ?» Et le gars lui répond avec la simplicité angélique quasiment, « Oh, monsieur le curé, c'est très simple, je m'agenouille, je l'avise, il m'avise et je repars. » Voilà. Eh bien, la prière, c'est à la fois difficile et en même temps pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on y vient et vous y êtes en ce moment, qu'importe dans quelles conditions nous y sommes, parfois nous ne sommes pas contents de notre prière, j'entends souvent dire « Oh, j'ai eu des distractions, j'étais pas à ce que je faisais, etc. » Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous veniez à la prière, à cette prière-ci, la prière liturgique, celle du corps du Christ lui-même, que vous priez dans votre chambre, qu'importe, quand vous allez à la prière, vous y êtes et personne ne pourra vous retirer cela. Alors voyons d'abord dans un premier temps ce qui est contraire, ce que la prière n'est pas et ce qui est contraire à la prière, pour être plus positif dans un deuxième temps, qu'est-ce que la prière, ce qu'elle est et comment cela se passe. Tout d'abord, ce que n'est pas la prière est d'abord les péchés contre la prière. Il y a des péchés, c'est la vertu de religion qui nous fait prier, et il y a des péchés contre la prière. L'Église a toujours, avec constance, dénoncé trois attitudes fondamentales, deux assez simples et une compliquée. Le premier, c'est la superstition. Voilà, la superstition qui est une certaine manière de mise en contact magique avec Dieu et contraire à l'esprit de la prière. Vous connaissez les superstitions, elles sont nombreuses, ce n'est pas la peine que je les rappelle, et puis surtout, il y en a sûrement beaucoup que je ne connais pas. Je me contenterai de vous dire que ça porte malheur d'être superstitieux. Et donc, voilà, il vaut mieux ne pas être superstitieux, ça ne sert à rien, ça n'a jamais fait advenir quoi que ce soit. L'autre péché contre la prière, c'est la divination. Un peu plus répandue aussi, la divination qui va de la consultation des cartes jusqu'au fait de tourner les tables, de faire tourner les tables ou les verres ou que sais-je, eh bien c'est un péché contre la prière, outre que ça peut être dangereux, c'est surtout un détournement de notre relation intérieure à Dieu. Ne croyez pas que ça soit extérieur à votre être, la prière. C'est ce qu'on fait dans la divination. On va chercher un gourou, on va chercher une prophétie de je ne sais quoi pour dire « qu'est-ce que c'est Dieu ?» Or, Dieu se trouve à l'intime de vous-même, c'est-à-dire il va se révéler réellement dans votre cœur, dans votre prière. Il n'est donc pas besoin d'aller chercher des solutions magiques extérieures à la prière. Enfin, et là c'est beaucoup plus compliqué comme péché, c'est l'idolâtrie. Alors bien sûr, il y a de grosses idolâtries très simples. Si on met un tas d'or ici et qu'on l'embrasse, si dans votre chambre ou dans votre appartement trône un lingot d'or au centre que vous honorez, encensez, etc. Bon, c'est l'idolâtrie grossière. Mais l'idolâtrie peut être d'une extrême finesse. L'idolâtrie, c'est de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas, et cela peut être très subtil, même notre propre connaissance livresque, notre intelligence peut être adorée, pensant que quand j'ai trouvé que je suis plus intelligent que tout le monde et même que Dieu, eh bien, Eh bien, c'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire que je prends pour Dieu ce qu'il n'est pas, même si c'est ma propre intelligence. Voilà, ça c'est les péchés contre la prière, il fallait en parler. Mais surtout, il est important de regarder nos petites erreurs, ce qui n'est pas pareil. Un péché, c'est un mal voulu, une erreur, c'est un mauvais chemin, ce n'est pas la même chose. Et ce mauvais chemin, c'est de croire d'abord que la prière va renseigner le bon Dieu. C'est-à-dire, je prie pour lui dire qu'il ne fait pas beau et qu'il serait temps qu'il fasse beau, au cas où il n'aurait pas vu. Alors donc, non, la prière ne sert pas à renseigner le bon Dieu, qui sait tout par avance, ce n'est pas le but de la prière. La prière non plus n'est pas une manière de forcer Dieu. Ça, c'est la conception d'un faux commerce avec Dieu, car il y a un commerce admirable, dit saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire le fait d'avoir un échange intérieur gratuit, profond. C'est le commerce au sens vulgaire du terme, c'est de penser qu'on va acheter le bon Dieu à force de prière. Et donc voilà, j'ai dit la messe deux fois aujourd'hui, je vais dire mon chapelet tout à l'heure sur le chemin de l'aéroport, j'ai dit mon office ce matin, etc. Je suis un bon prêtre, j'ai acquis des points, et donc maintenant, le bon Dieu, il est un petit peu obligé. Voilà, c'est mon obligé. Non, le bon Dieu n'est jamais mon obligé. Quelque bon que je sois, la prière est un acte de justice. La vertu de religion se rattache à la vertu de justice. Quand nous prions Dieu, nous faisons ce qui est juste, c'est-à-dire nous rendons à Dieu la gloire et la puissance, car c'est à lui que revient tout honneur. Voilà, bref. Il ne s'agit ni de renseigner le bon Dieu, ni de l'éclairer, ni de le forcer, ni d'opérer un commerce avec lui. Tout est grâce, et même le fait que je prie, c'est déjà un don de Dieu en moi. Alors, c'était pour les points négatifs, c'est qu'est-ce que n'est pas la prière ? Qu'est-ce que la prière ? La prière est un dialogue intérieur, un acte essentiel. Il arrive parfois qu'on considère la prière comme un peu la dernière des choses. Vous savez, quand vous ne pouvez plus, vous n'avez pas d'argent pour donner à quelqu'un, que vous ne pouvez plus l'aider parce qu'il va mourir, alors vous dites, bon, ben, je prierai pour vous. Comme de guerre lasse, comme si c'était la dernière chose que l'on pouvait faire. Alors que c'est la première que nous devons faire. Ce qui ne veut pas dire que nous ne puissions pas soulager la misère, soulager la douleur, accompagner, évidemment. Mais nous le faisons dans la prière. Car la prière, c'est d'entrer dans le dialogue avec Dieu, c'est donc d'entrer dans l'action même de Dieu, qui, en lui-même, a créé le monde. Par sa volonté et par le Verbe qu'il profère, le Christ, c'est cette prière incessante, et si vous lisez les Écritures, notamment les Évangiles, en regardant le Christ, vous verrez qu'il prie souvent. La prière n'est pas quelque chose d'accessoire pour nous, pauvres hommes, qui ne saurions pas quoi faire, car Dieu prie, c'est-à-dire qu'il dialogue sans cesse en lui-même. Et notre prière est une convocation à cet échange d'amour incessant dans la Trinité du Père au Fils par l'Esprit Saint. C'est une convocation à ce dialogue intérieur profond où le Fils s'offre au Père qui lui redonne son Esprit sans cesse. C'est dire que prier, c'est l'action la plus importante, la plus fondamentale du monde. On raconte une histoire, probablement vraie, mais je ne l'ai pas vérifiée, au Vietnam, d'un commissaire politique communiste qui, un don qu'il voulait faire à l'Église, accorde à l'évêque des missionnaires. Et il lui dit, je vous accorde 10 missionnaires. Et l'évêque négocie et il lui dit, je vais choisir, si c'est possible, 5 moniales. Et le commissaire politique de s'étonner, mais puisque je vous offre 10 prêtres pour aller prêcher, vous choisissez 5 religieuses enfermées. Il lui dit oui, parce que c'est à partir de là, mon diocèse est pauvre en prière, mon diocèse n'a pas de religieux contemplatifs ni de religieuses contemplatives, alors c'est à partir de là que la prédication va se faire fulgurante. Oui, il ne faut pas s'y tromper, c'est à partir de la prière intérieure que nous refondons notre âme. Nous en avons besoin, c'est fondamental. Vous connaissez l'humour de Saint Vincent de Paul, qui prêchant à la cour, c'est un grand saint qui a prêché à tout le monde, des orphelins, aux veuves, en passant par les pauvres de toute nature, jusqu'à la cour du roi. Et un jour qu'il prêche à la cour, il dit, ben voilà, je sais que vous êtes des gens occupés, mais il vous faut prier au moins une heure par jour, sans quoi vous n'arriverez pas à trouver le chemin du ciel. Alors bien sûr, je sais, si vraiment vous êtes très occupés, si vous avez des placés à faire, s'il faut aller visiter le roi, s'il faut aller ordonner des mandements royaux, etc., si bref, votre vie est très compliquée, alors il faut que vous priez 2 heures. Parce que c'est encore plus nécessaire, évidemment, pour votre action. Voilà, avec un peu d'humour, dit combien la prière n'est pas accessoire de notre être, n'est pas le petit bout qui reste au cas où on pourrait s'occuper encore un peu. C'est nécessaire pour que nous vivions vraiment du Christ lui-même qui prie son Père. Alors enfin, il nous faut voir les conditions de cette prière. Ce sont celles de cette femme de la parabole, de cette femme imaginaire que, dans l'histoire que raconte le Seigneur, cette femme qui vient casser la tête du juge inique, elle doit avoir beaucoup d'humilité. Car pour venir demander, c'est toujours une position d'humilité. Et en plus, pour demander à quelqu'un qui vous refuse plusieurs fois, c'est-à-dire insister jusqu'à lui casser la tête, eh bien, il faut beaucoup d'humilité. C'est la condition essentielle de la prière. Je l'ai parfois dit, je le redis, c'est ce qui rendait fou Nietzsche, de savoir que dans la prière, on s'humiliait devant Dieu. Eh oui, ce ne sont pas des ordres que l'on donne au bon Dieu, on se met en dessous et on lui demande sa grâce et le bien que l'on peut recevoir. Oui, c'est la condition essentielle, il y en a une autre que cette femme nous révèle aussi, c'est sa détermination, contre vents et marées. Et même s'il semble que votre prière n'est pas exaucée, Dieu ne dit pas qu'il vous serez immédiatement exaucé, Dieu dit que immédiatement, bien vite, il vous sera fait justice, c'est-à-dire que vous serez rendu juste dans votre prière, vous serez rendu participant de la connaissance de Dieu, ami avec Dieu. Oui, c'est parce que nous sommes déterminés que nous continuons à prier, même quand ça ne va pas, même quand on maugré. Quelqu'un me disait hier avoir assisté, c'est pas une anecdote d'aujourd'hui, mais à assister à la messe du pape Jean-Paul II dans sa chapelle, et d'avoir eu la chance d'arriver une demi-heure avant et d'avoir vu le pape prier longuement avant la messe. Et il m'a dit hier, je ne parle pas polonais, mais j'ai l'impression qu'il était vraiment en train d'engueuler la Sainte Vierge, parce qu'il se tournait sans cesse vers une statue de la Vierge et que ça avait l'air insistant. Oui, nous avons le droit de réclamer, de dire notre peine, notre malheur, notre incompréhension, parler avec Dieu. Ce n'est pas une conversation lénifiante pour de béni oui-oui, c'est un véritable échange de cœur à cœur où l'on dit ce qu'on a sur le cœur, de bon ou de moins bon. Enfin, c'est la constance, évidemment, de cette femme qui va payer, c'est-à-dire c'est cette détermination en action qui va la mener à sans cesse demander. Si sainte Monique n'avait pas de ses larmes supplier le Seigneur pendant plus de 10 ans pour son fils qui se perdait, eh bien peut-être que nous n'aurions pas eu saint Augustin. Et oui, la prière, l'action essentielle, j'aime à le répéter quand je prêche sur cette question, je ne doute pas que mon action est fondée sur la prière de celle notamment qui prie pour moi, et puisque j'ai la chance d'avoir quelques parentés, l'une bénédictine, l'autre carmélite et la troisième aux béatitudes. 3 femmes qui ont consacré leur vie à la prière intérieure, à l'offrande du monde à Dieu. Et je ne doute pas un seul instant que lorsque je constate quelque efficacité à ma prière, c'est d'elles, c'est par leur intercession que me vient ce bien. Je finirai en racontant une anecdote encore que j'ai racontée il n'y a pas longtemps, mais je ne m'en lasse pas, de celle-ci plus ancienne du cardinal Lustiger, qui un jour, il était aumônier de la Sorbonne, et un jour qu'il était aumônier de la Sorbonne, un monsieur vient le trouver. Il lui dit, est-ce que c'est vous l'aumônier de la Sorbonne ? Oui, j'ai un message pour vous, de l'abbé, j'ai oublié son nom, l'abbé machin. Ah, connais pas. Non, vous ne le connaissez pas, c'était l'aumônier de la Sorbonne avant la guerre. Et nous étions dans le même camp, et il est mort. Mais en mourant, il m'a dit, va à la Sorbonne, va chercher l'aumônier, qui que ce soit, et dis-lui, j'offre ma vie pour l'efficacité de son travail apostolique. Voilà que s'ouvrait devant les yeux de l'abbé Lustiger, non pas l'orgueil de croire que sa grande compétence, sa verve et son énergie avaient déplacé les étudiants nombreux qui venaient l'écouter, mais que la prière incessante avait fécondé son œuvre. Puissions-nous avoir la foi, comme s'interroge l'évangéliste, comme le Seigneur s'interroge, donné par l'évangéliste, puissions-nous avoir la foi pour prier encore, car le Seigneur vient et il attend notre prière. Ainsi soit-il.